conférence qui nous fait nous promener dans le labyrinthe obscur en toute lumière. Bon, alors peut-être y a-t-il des questions, des objections, des réflexions.
Oui.
Ah, c'est une bonne question, la notion de vectoriel. Ça doit dater de la fin du 17e, hein, je crois, hein, ou début 18e, hein, je pense que ça a été... je ne sais plus, effectivement, donc ça date, je pense que c'est... De toute façon, c'est des mathématiques qui datent fin du 17e, début 18e, qu'on fait la combinatoire, hein, hein, c'est factoriel. Les notations CNP, c'est utilisé par Pascal, je crois, déjà, hein, dans ce triangle. Donc ça, c'est... Mais les factoriels, je crois qu'elles sont notées de manière assez tardive. Hein, ça a été, alors, le point d'exclamation, effectivement, là, je ne sais pas du tout... d'où il vient, ni comment il a été élaboré. Oui, ça reste plus sérieux, mais c'est parlant. Ce point d'exclamation, justement, on le retient facilement. Hein. Le problème de notation mathématique, c'est de trouver quelque chose qui soit à la fois frappant et expressif. Donc, il faut qu'on puisse retenir la notation. Parce qu'on a besoin de se faire une image de ce qu'on a sous les yeux. Justement, le problème, c'est d'apercevoir ce qu'on a sous les yeux. Et pour ça, c'est important d'avoir une notation qui soit à la fois donc, commode et frappante. Le factoriel et le point d'exclamation frappent assez bien, attention, pour... Mais là, je n'ai pas de connaissances spécifiques à ce sujet. Oui ?
Est-ce que l'outil informatique, finalement, joue dans l'orientation de la recherche mathématique ?
Oui, bien sûr, ça simplifie, disons, c'est un calcul, et ça permet aussi de modéliser. La grande force de l'informatique, ce n'est pas simplement de faire la vérification automatique, comme pour le terme des quatre couleurs, c'est également de permettre de modéliser plus facilement les phénomènes, parce que les ordinateurs effectuent des calculs que les hommes ne peuvent pas effectuer. Donc on peut émettre des conjectures, on peut observer des évolutions de phénomènes, on peut modéliser, on peut représenter justement à l'aide de l'informatique. Donc la façon dont les mathématiciens actuels utilisent l'informatique, c'est pas seulement pour vérifier des calculs qu'ils n'auraient pas envie de mener à bien, c'est également pour modéliser et mettre en évidence des phénomènes qui sont difficiles à calculer à la main. Et à partir de là, justement, eh bien, on peut essayer d'élaborer une nouvelle théorie et d'expliquer ce que l'ordinateur ou l'informatique nous met sous les yeux. Donc c'est vraiment conçu comme un outil spécifique qui est un outil de visualisation, pratiquement, qui permet d'émettre des hypothèses, de faire des conjectures et éventuellement des idées sur la façon dont tel phénomène se produit, les raisons profondes, les hypothèses qu'on effectue, le comportement, certaines équations. Vous voyez, on peut tout à fait utiliser l'informatique oui, pour ça.
Est-ce qu'on n'arrive pas au problème de la programmation finalement,
l'outil informatique pour... Oui, bien sûr, il faut savoir effectivement ce qu'on demande à l'ordinateur. Alors ça a été formalisé par Turing, hein, le fait qu'on peut exiger ou non à l'ordinateur, ce qui est calculable, tout ça a été de manière assez fabuleuse, donc étudié par Turing dans les années 40, parce que Turing n'avait pas d'ordinateur à sa disposition. Et Turing donc a complètement formalisé ce que pouvait faire justement un langage formel et les opérations qu'un ordinateur pouvait effectuer. Donc il a complètement décrit ces machines de Turing. Il a complètement décrit les opérations que pouvait effectuer un ordinateur et la façon dont pouvait le programmer pour obtenir tel résultat. Mais c'est assez récent, hein, c'est des années 40 hein, justement. Et ce qui est fabuleux, c'est que la théorie a précédé l'apparition des machines. Oui, pardon.
Et la cryptologie,
oui, la cryptographie, de toute façon, tout ce qu'on utilise actuellement, c'est effectivement des mathématiques. Alors, c'est plutôt des corps finis qui sont utilisés, des problèmes de factorisation. Ça repose sur quelque chose de très simple, la cryptographie. Ça repose sur une dissymétrie entre une opération et sa réciproque. Vous connaissez peut-être la cryptographie à clé publique. Donc, le principe, c'est que... quand on fait la cryptographie, donc on veut envoyer un message codé à quelqu'un et être sûr que le récipiendaire, donc celui qui va recevoir plutôt, va pouvoir, disons, déchiffrer le message et être le seul déchiffré. Bon. Alors ça suppose que le message ne soit pas intercepté. Le problème, c'est que si on a recours à un code qui est connu du seul destinataire, eh bien le code peut être intercepté. Donc on court le risque que le code soit intercepté par l'ennemi. C'est ce qui arrive aux Allemands avec Enigma, justement, la machine. Qui a été elle-même donc élucidée par Turing. Et donc, les Allemands avaient envoyé des messages à leurs sous-marins. Tout se passe très bien. Seulement, les Anglais interceptaient les messages et arrivaient à déchiffrer ce que les Allemands envoyaient. Donc, catastrophe, bien sûr, c'est très coûteux en termes de sous-marins, hein, cette histoire d'avoir des messages décodés. Alors, actuellement, ce qu'on effectue, c'est des cryptographies, c'est des clés publiques. C'est-à-dire que tout le monde peut crypter, mais seul celui qui a la clé peut décrypter. ça repose sur une dissymétrie entre une opération qui est le produit, la multiplication, le produit logarithmique, donc on fait le produit de nombres, et pour décrypter, au contraire, il faut factoriser. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. La réciproque de l'opération d'effectuer un produit, c'est la factorisation, qui est beaucoup plus compliquée d'un point de vue algorithmique que l'effectuation du produit. Donc cette dissymétrie fait que tout le monde peut crypter un message, mais seul celui qui sait factoriser peut décrypter. Justement. Donc la clé est donnée à tout le monde, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de tout le monde décrypter, mais seul celui qui a la clé d'écryptage peut décrypter. Voilà, c'est ce qu'on utilise comme procédure de manière.
Le langage naturel, les orthophonistes, ça donnait les conséquences de la surdité ou savoir si on est, si on est nerveux. Est-ce que la proportion de. Par quelle influence vous savez être caractéristique comme être muet ou être aveugle sur le travail du mathématicien?
Voilà, c'est très intéressant. Alors les mathématiciens. A priori, n'ont pas besoin de voir les objets. Hein. Il y a le fameux exemple dans Diderot, là, sur les aveugles, avec Sanderson, donc, qui était le mathématicien aveugle, et qui pourtant démontrait des résultats sur le cube et sur... Alors, d'où Sanderson tirait-il sa science du cube? Comment avait-il imaginé un cube et comment énonce-t-il... Bien, il se représentait, bien sûr, l'objet, par la description qu'on lui en faisait. Alors, savoir si cette représentation est adéquate ou non, savoir si c'est la même, justement, tout problème, c'est comment imaginer un objet qu'on ne voit pas. Comment décrire cela? Les mathématiciens peuvent tout à fait être aveugles. Hein. Il y a des mathématiciens aveugles qui imaginent, qui mémorisent cette structure. Et Euler, par exemple, a perdu la vue assez rapidement. Hein. Et Euler avait mémorisé complètement, disons, toutes ses théories, et ensuite il dictait les énoncés. Donc il avait intériorisé tout un monde de formules, de résultats. Voilà. Pour faire des calculs, également, on suppose qu'on fasse de tête. Ce qui est assez compliqué, hein, parce que c'est commode quand on a une feuille de papier. Bon, en réalité, les vraies mathématiques se font de tête, pratiquement. C'est très rare qu'on ait besoin d'avoir recours au papier. On a recours au papier pour vérifier, pour mettre net. Mais les grandes idées, en fait, elles sont pratiquement intérieures. Les grandes illuminations, par exemple, Poincaré, qui justement s'interroge sur les fonctions fuchsiennes, ça lui court dans la tête pendant quelques années. Il a un problème assez compliqué à résoudre sur les fameuses fuchsiennes. Et puis, il n'arrive pas à résoudre ce problème. Alors, Poincaré prend le train un jour, il va jusqu'à Caen. Et puis, il regarde le paysage, les pommiers sont en fleurs, c'est très beau, c'est au mois d'avril. Bon, la Normandie, c'est très joli. Il pense plus du tout à ses fuchsiennes et tout d'un coup, il arrive en gare de Caen, il met le pied sur le marchepied pour descendre du train et là, la révélation, la solution du problème lui apparaît. Donc là, pas du tout de papier, c'est vraiment le travail pratiquement du cerveau en sous-main qui fait que le mathématicien a pu résoudre le problème. Ça travaille de manière un petit peu indépendante. Donc les mathématiciens n'ont pas besoin d'imaginer, de se représenter. Disons qu'il y a des calculs qui se font de manière spontanée, sans qu'on ait besoin de les voir, de les représenter ou de les entendre. Alors en revanche, un mathématicien sourd, j'ai plus de doutes, parce qu'il faut quand même pouvoir s'exprimer, communiquer. On pourrait bien sûr faire uniquement la mathématique écrite, mais ça paraît beaucoup plus difficile qu'un mathématicien aveugle, beaucoup plus pénalisant, disons, pour les processus cognitifs. De grands mathématiciens, Pontryagin, je crois aussi, était plus ou moins aveugle, enfin, ont perdu la vue assez rapidement. Et ça n'avait pas empêché justement d'imaginer, de concevoir des théories et ensuite de se produire. Mais l'importance de l'échange est telle que ça me paraît très difficile de faire des mathématiques en étant sourd ou en n'ayant pas. Oui, il est devenu, oui. Oui. Ben, Sanderson, je crois, celui dans la lettre sur les aveugles de Diderot était aveugle de naissance, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et pourtant, il a démontré les théorèmes de géométrie sur le cube. Donc oui, ça existe. Ça existe, oui. Oui ?
Je comprends. Je vais préciser par rapport à l'histoire de l'aveugle.
Oui ?
J'ai eu un étudiant qui est devenu aveugle à l'âge de 12 et 14 ans et qui a fait des études d'ingénieur mathématicien, donc de bac plus 5, et qui est employé comme ingénieur pour faire des maths. Et j'ai jamais réussi à comprendre comment il faisait et comment il était, mais il était vivement apprécié par ses camarades parce qu'il faisait les choses très bien. Donc c'est pas du tout à la mort des autres. Et je dois avouer que je trouve ça très mystérieux parce que moi, pour transformer une équation, j'ai besoin de voir celle qu'il y a avant. J'arrive pas à imaginer autrement.
Oui, mais ça.
Ce point-là, en quelque sorte, il y avait besoin de notre aide dans certains cas. Quand au niveau on parlait de l'informatique, on avait des résultats, des courbes qui pour interpréter les courbes, pour savoir si, si ça monte, si ça descend, si, enfin, etc., là, il y a besoin de quelqu'un à côté de lui qui lui dise ben, voilà ce que fait la courbe, pour qu'il puisse réfléchir sur ce qui se passe. Mais c'est la seule situation où il avait réellement besoin, quelquefois, il avait besoin qu'on lui dise, qu'on lui explique des choses, c'est sûr, mais pratiquement, il s'en sortait tout seul très bien. Et ça, c'est une histoire de il y a, c'est quelqu'un qui a eu son diplôme d'ingénieur il y a 4 ans sur Toulouse. Et je voulais prendre un autre sujet qui a été un petit peu évoqué à propos des notations et de notations qui s'imposent. On a quelques exemples, pas énormément, mais de notations qui restent duales. On a deux notations pour la même chose. C'est votre exemple du CNP.
Oui, P parmi N, oui, voilà.
De N élément pris PAP, où il y a deux notations qui cohabitent complètement. Je dirais une européenne du CNP, et pour dire un peu rapidement, une anglo-saxonne.
Oui, P parmi N avec les parenthèses, oui.
Qui est le NP entre parenthèses. Est-ce que vous avez des explications de ce genre de... Enfin, d'abord, sur cet exemple-là, parce que vous savez d'où vient le CNP, est-ce que vous savez d'où vient la double parenthèse? Et est-ce que vous avez des explications pourquoi ce genre de situation arrive à cohabiter?
Alors ça, oui, mais ça, c'est tradition nationale. C'est parce qu'il y a eu aussi, à côté, disons, de la communication internationale, il y a aussi des élaborations. Alors, l'exemple le plus simple, c'est celui entre la différence entre Leibniz et Newton pour le calcul différentiel. Donc, Leibniz qui fonde, vers 1686, je crois, le calcul différentiel, calcul intégral, et qui a une notation df sur dt avec l'intégrale aussi df de t dt. Donc, c'est Leibniz qui a introduit cette notation-là. Newton, presque 30 ans plus tard, publie son calcul des fluxions, en prétendant, de ses mauvaises foi d'ailleurs, avoir, en gros, précédé Leibniz. Donc, les Anglais sont restés du côté newtonien, par fierté nationale. Et donc, ils ont gardé les notations newtoniennes et puis des procédures presque newtoniennes. Et au contraire, dans le reste de l'Europe, on est resté leibnizien. Donc, il y a eu une espèce de conflit presque national pour savoir s'il fallait parler de calcul des fluxions au sens de Newton ou si, au contraire, on était avec Leibniz dans le calcul des infinitésimaux avec calcul différentiel. Bon, finalement, Leibniz l'a emporté, aussi pour la postérité. Maintenant, on reconnaît quand même que c'est Leibniz qui avait à la fois, disons, l'idée principale et puis la bonne notation. Mais pendant quelque temps, les deux ont cohabité. Les Anglais refusaient de se rendre et préféraient justement noter à la façon de Newton et définir la différentielle à la façon de Newton plutôt qu'à celle de Leibniz. Bien que les résultats aient été les mêmes, au bout du compte, ça a quand même été presque une guerre ouverte entre l'Angleterre et le reste du monde. Donc là, c'est sans doute une tradition nationale, le fait que d'un côté, il y ait les CNP, donc les combinaisons, CNC, c'est pour combinaison, et le P parmi elles, je ne sais pas très bien d'où vient effectivement la double parenthèse. Là, c'est une notation qui est effectivement assez efficace. D'ailleurs, actuellement, le P parmi N, je crois, a pris l'ascendant. Les CNP sont plus ou moins en disparition. C'est un petit peu triste. C'est ce que j'ai appris dans mon enfance, mais voilà. Donc, l'angle Pascal, c'est effectivement des CNP qu'on utilise. Mais voilà, donc c'est souvent en fait des conflits nationaux parce qu'il y a des enjeux. La science n'est pas purement libre et complètement transnationale. Elle est également soumise à des espèces de guerres de 100 ans ou à des. Oui.
Et ça, on retrouve ce que vous dites sur la compétition nationale, en sorte. On le retrouve quand il y a eu un petit peu une compétition, une concomitance. Dans plein d'autres domaines, typiquement la loi de Mariot en France, c'est la loi de Bayle en Angleterre. Et c'est la même loi, c'est juste pas le même bonhomme. Et je crois qu'ils l'ont trouvé à peu près en même temps et je crois indépendamment. Donc il fallait-il arbitrer. Il suffit de savoir. Mais donc on a un peu ce que vous dites, c'est que c'est un petit peu la même chose au niveau des notations.
Oui, c'est ça, c'est un petit peu la même chose. Et d'autant plus que chaque école nationale avait pratiquement sa spécialité. Les Allemands, dans les années au XIXe siècle, ont fondé complètement l'algèbre générale. C'est vraiment une science pratiquement allemande. Les Anglais, c'est plutôt les déterminants calculs matriciels. Voilà. Et puis les Français, c'est plutôt de l'analyse. Donc chaque nation avait développé de manière... alors ce n'était pas complètement indépendant, ils communiquaient quand même. Mais enfin, il y a eu des moments, justement, où les Français ne voulaient pas faire ce que faisaient les Allemands, où il y avait des incompréhensions aussi. Et puis, les communications étaient très difficiles. Alors que c'était beaucoup plus facile, paradoxalement, au XVIIe siècle. Parce qu'on avait cette langue commune qui était le latin, qui était donc utilisée par tous, et cette correspondance épistolaire permanente entre un nombre restreint de savants. Au XIXe siècle, les communications étaient un peu plus difficiles parce qu'il y avait des universités plus ou moins indépendantes. L'Allemagne, qui était très en avance dans le développement du système universitaire, qui avait réussi à regrouper justement les meilleurs éléments. La France, bon, il n'y avait guère que Paris où il y avait une conformation d'intellectuels et de scientifiques. Et par ailleurs, les communications n'étaient pas évidentes entre ces différents domaines. Hein. Les Français ne voulaient pas trop entendre parler ce que faisaient les Allemands. Donc ça a aussi créé des développements un peu indépendants dans des systèmes, dans des domaines un peu parallèles. Hein. C'est,
Oui.
J'ai quand même été très très frappé dans ton discours par l'abondance des références visuelles.
Ah oui.
Et de toute façon, quand on dit c'est clair.
Oui, voilà.
On est absolument. Tu dis aussi qu'il faut voir les objets, il faut voir les relations, etc. Et donc, c'est par rapport à un univers aussi abstrait, la présence et l'importance de la référence est un peu frappant. Pour moi, ça fait écho avec cette espèce de mystère qui est quand est-ce qu'on dit qu'on a compris. La discontinuité du moment où on n'a pas encore compris, du moment où on a compris, et pour moi, est-ce que c'est formalisable, parce que le sens cognitif de le formalisme, est-ce que c'est une pure impression subjective, puisqu'on peut croire avoir compris, en fait, se planter complètement. Donc cette espèce de discontinuité du passage en compréhension est pour moi un peu mystérieuse.
Oui, mais c'est très important effectivement le fait de le visuel, parce que on parle d'illumination aussi quand on a compris. Et l'illumination tout d'un coup, et ce qui est à mon avis là où Pascal justement est très fort dans sa formulation, c'est qu'on voit ce qu'on a sous les yeux. L'esprit de finesse, c'est voir ce qu'on a sous les yeux, et c'est ce qui est le moins facile, justement. Le moins évident, c'est de voir ce qu'on a sous les yeux et de comprendre ce que c'est qu'on a. Et tout d'un coup, on voit quelque chose qui était évident qu'on avait sous les yeux, mais qu'on ne voulait pas, qu'on ne pouvait pas voir parce qu'on ne regardait pas du bon côté. Et c'est ça aussi. Tout d'un coup, ça apparaît de manière évidente. L'évidence se manifeste et le voile tombe et on voit la chose du bon côté. Alors c'est peut-être plutôt un problème de point de vue justement qu'un problème de vision pure, parce que l'objet on l'a, mais on ne regarde pas du bon côté, on ne regarde pas la bonne chose, la bonne qualité dans l'objet, on ne l'examine pas sous le bon angle, peut-être là-dessus que ça joue, mais effectivement en mathématiques on a, il est clair, il est évident,
Oui.